Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service avec Jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir les violences intercommunautaires à l'approche des élections? On en parle dans cette émission avec le professeur Augustin Mouindamba, historien des mentalités. Et nous avons déjà en ligne monsieur Hubert Chiswaka, directeur général à l'Institut des recherches en droits humains. Il va intervenir dans quelques instants. Monsieur Hubert Chiswaka, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi, je vous salue de Lubumbashi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, on vous retrouve dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette émission, n'hésitez pas de nous appeler pour intervenir, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de l'entrepreneuriat, voilà. Il s'est tenu à Goma, les salons d'innovation organisés par Kivu Entrepreneur. Comment tout cela s'est déroulé? Eh bien, on aura le responsable de cette structure dans la deuxième partie de cette émission pour échanger autour de cet événement. Voilà, ainsi présenté le menu d'Okapi Service aujourd'hui. Et pour participer à cette émission, écrivez-nous à service@radiookapi.net et puis appelez au 099 706 99 41, 099 706 99 41. Et toute l'équipe est en place pour vous servir. Tatima Poukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Claude Sial à la mise en onde au micro, c'est Jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi. Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui de la prévention des violences intercommunautaires à l'approche des élections à RDC. Vous savez, quatre personnes sont mortes à Malembankoulou, au centre de la province du Katanga. Ces dernières 48 heures, au cours des violences intercommunautaires, l'incident s'est produit à la suite du meurtre d'un conducteur de taxi-moto perpétré par des supposés bandits identifiés comme ressortissants de la région du Kasaï, selon les sources locales. En représailles, les amis de la victime se sont pris aux membres de la communauté du Kasaï vivant à Malembankoulou. La tension entre les ressortissants du Katanga et du Kasaï et l'attente à l'approche des élections indique certaines sources. Alors comment prévenir l'escalade de la violence à l'approche des élections? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons en ligne Monsieur Hubert Chiswaka, qui est directeur général à l'Institut des recherches en droits humains. Monsieur Hubert, encore une fois, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette émission. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui serait à la base de ces violences intercommunautaires?
Une fois de plus, merci de m'avoir associé à cette émission. Je peux d'emblée je dire que ce qui a suscité la violence, ce qui a causé l'irruption immédiate de la violence, le discours de haine qui a été véhiculé pendant plusieurs jours, disons même plusieurs mois, par petits mots, par petits messages qui venaient des leaders politiques. Au lieu de construire un discours de paix, nous avons suivi pendant plusieurs mois des politiciens essayer d'attiser le feu dans les cœurs des Congolais. Et ce qui a fait que, à la suite d'un incident ordinaire, à la suite d'un crime odieux qu'on peut bien condamner, commis par des bandits, on pouvait bien poursuivre ces bandits, les arrêter pour avoir volé ou tenté de voler une moto et d'avoir tué le motard. Donc la justice pouvait bien s'en occuper avec l'aide de la police. Mais cependant, comme l'environnement était déjà pollué avec un discours de haine, c'est ce qui a fait que les ressortissants de ce territoire ont vite réagi en fonction de ce qu'ils avaient déjà à l'esprit, en fonction des intentions qui ont déjà été construites en eux par un leadership irresponsable. Voilà, ça a débouché sur la violence, l'attaque contre des individus innocents qui n'ont rien à voir avec les bandits qui étaient bien identifiés, qu'on pouvait bien arrêter et mettre devant la justice. Voilà la source de la violence. Donc le contexte politique est très sensible et ici on doit interpeller ceux qui distillent le discours de haine dans la population. On ne sait pas si on prononce le discours dans un coin de la République, l'impact que ça pourra avoir dans un autre coin de la République. On peut parler à Kinshasa et avoir les résultats à Goma, on peut parler à Kasumbalesa et avoir les résultats à Kananga, on peut parler en Bujima et avoir le résultat en Bandaka. Donc c'est ça, lorsque vous êtes en train de nourrir la population du discours de haine, la réaction c'est souvent ça.
Voilà, donc ce qui est arrivé à Malemba Nkulu, c'est tout simplement le résultat, d'après vous, le discours de haine distillé par les hommes politiques. Et voilà, ça a eu un impact de l'autre côté. Alors, est-ce que... avec cette situation, on peut dire que le conflit est déjà latent. Avec ce genre de discours, est-ce que on peut craindre encore d'autres épisodes de violence de ce genre, Monsieur Hubert?
Effectivement, il y a lieu de craindre que nous puissions avoir d'autres irruptions de violence dans d'autres zones. Parce que les politiciens véreux ont toujours eu tendance de distiller à petit feu ce discours dans la population. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le discours, ce n'est pas seulement les politiciens. Ces derniers temps, nous avons entendu même des pasteurs payer des divisions entre les Congolais. D'une part, on appelle les Congolais frères entre eux, frères toujours, et de l'autre côté, on dit non, vous n'êtes pas des frères, vous êtes des non-originaires. Si un pasteur dit ça, il crée déjà un sentiment d'inimitié entre la population. Et aussi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Il y a des personnes qui sont très suivies sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous dites, voilà, vos frères viennent de faire ça, donc nous aussi on fera. Je donne un exemple très simple. Si moi, Tshisoaka, je suis à Lubumbashi, je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi, je passe sur la rue et un politicien dit, voilà, vous les Tshisoaka, vos frères sont au pouvoir. C'est un message qu'il vient de passer immédiatement aux autres qui ne sont pas les Tshisoaka, dont les frères ne sont pas au pouvoir. C'est un message de stigmatisation, d'incitation à la violence. C'est pourquoi j'ai dit, effectivement, il y a lieu de craindre que nous puissions avoir des pires irruptions à l'avenir. La question qu'on pourra se poser maintenant, c'est comment faire face pour que nous ne puissions pas y arriver.
Voilà, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments? Et une autre question, c'est de savoir pourquoi c'est toujours à l'approche des élections qu'on distille ces genres de discours, Monsieur Hubert.
Oui, vous comprendrez très vite à regarder juste le nombre des candidats députés pour les 500 sièges de l'Assemblée nationale. Vous avez plus de 25 25 000 personnes qui veulent se battre pour ces sièges. Donc, la concurrence est très rude. Pour arriver à avoir ces sièges à l'Assemblée nationale, les politiciens sont en train de dire toutes les bêtises pourvu qu'ils puissent avoir une certaine sympathie de leur côté. Et souvent, ils sont en train de jouer sur des cordes sensibles des tribalités, d'appartenance à un village, d'appartenance à une province. Vous entendrez des politiciens dire « Non, nous, nous sommes les propriétaires, les autres sont des locataires. » Ici, Lubumbashi dit « Tukobatoto ya Munyumba, votez pour nous, et les autres, ce sont des étrangers. » Ce sont là les discours qui distillent la violence à l'approche des élections. Ça fait partie de la stratégie des politiciens de créer une certaine psychose, de sorte que la population puisse dire « Ah non, en tout cas, pour être à l'aise, il faut les nôtres. » Les nôtres, c'est ces politiciens qui se présentent comme étant de leur tribu, de leur clan, de leur territoire ou de leur province. Et les politiciens malins, dès qu'il aura obtenu ces voix de ces pauvres populations, mais il va siéger avec les autres qu'il avait traités de non-frères. Il va discuter les lois de la République avec ces autres qu'il avait traités de non-originaires. C'est pourquoi nous trouvons que c'est malhonnête, les politiciens actuels, d'utiliser tel langage. Et les médias et la grande partie de la société civile, y compris les églises, doivent concourir pour que ces discours de haine ne puissent pas être dominants dans la discussion dans la société. Et ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux, il y a des individus qui ne sont peut-être pas des prêtres, qui ne sont pas des politiciens, mais qui sont très suivis et ils sont chaque jour dans les médias sociaux. Ces gens-là, je pense que ils doivent être bien surveillés parce que eux aussi incitent à la violence. C'est ici peut-être l'occasion de voir est-ce qu'il y a un parquet des numériques qui surveille ce qui se passe dans les réseaux sociaux pour interpeller ces personnes qui distillent la violence à travers les réseaux sociaux.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de la prévention, comment prévenir les conflits intercommunautaires, la violence à l'approche des élections. Nous avons en ligne Antoine depuis Bounia. Bonjour. Antoine, vous êtes en ligne depuis Bounia. Bonjour.
Oui, vous m'écoutez?
Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux violences intercommunautaires?
Bon, écoutez, bon, je viens de suivre votre invité. Mais bon, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les politiciens qui véhiculent de tels propos. Hein. Moi, je pense que ce sont les politiciens qui sont en mal positionnement. Vous savez, et surtout, nous sommes à la veille ici aux élections, et il y a certains, bon nombre ne s'attendaient pas qu'on allait arriver aux élections. Souvenez-vous, juste au début, là-bas, on accusait le président de la République comme quoi il va faire, il voulait faire quoi, ce qu'on appelle quoi, le glissement. Et par surprise, ils trouvent que maintenant nous allons vers des élections. Et maintenant, peut-être qu'ils ne s'étaient pas préparés. Et comme d'habitude, on veut toujours aller négocier et partager les gâteaux au détriment du peuple. Maintenant, ils commencent à véhiculer de tels propos pour inciter au peuple les leurs de pouvoir soit pour boycotter les élections, mais c'est pas tout le monde qui véhicule de tels propos. Et je demanderai au gouvernement et à notre gouvernement surtout vraiment de pouvoir renforcer notre justice, hein? Parce que il faut que la justice fasse son travail. On n'a pas vraiment senti le problème qui s'est passé par exemple à Malembankulu. On n'a pas vraiment senti, à moins que je ne sois pas bien informé, moi je n'ai pas vraiment senti la justice faire son travail. Il faut chercher les coupables, il faut les traquer, il faut les déférer devant la justice. Il faut les juger, il faut les condamner. On doit savoir réellement qu'est-ce qui se passe à Malembankulu, parce que jusqu'à présent nous nous sommes confus, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe à Malembankulu. Ils sont à Malembankulu. Peut-être que c'est une rébellion à gestation. Souvenez-vous des propos des gens qui sont allés en exil, qui ont fui les Numbi, les Nanga, hein? Tout peut arriver. Hein? On ne sait pas ce qui va se passer, mais je martèle, nous demandons à notre gouvernement vraiment de pouvoir renforcer la justice. et les déférer les coupables devant la justice qui soient condamnés. C'est ça. Merci beaucoup.
Bien.
Allô, Daniel. Allô,
oui.
Daniel.
Oui.
Oui, à propos de Malemba Nkoulou, est-ce que je peux partager quelques informations? Parce que nous avons été en réunion avec le commandant de la deuxième zone de défense, oui, qui a fait des interventions de ces côtés-là. Mmh. Donc hier, nous avons eu une réunion, les organisations de la société civile du Katanga, nous sommes allés voir le général Pacifique Masunzu, qui est commandant deuxième zone opérationnelle, dont il couvre toutes les provinces de l'ancien Katanga et toutes les provinces de l'ancienne Kasaï. Nous sommes allés lui poser la question que l'auditeur de Ituri là, vient de soulever. Mais écoutez, mon général, ça c'est votre zone opérationnelle. Qu'est-ce que vous venez de faire? Parce que nous avons tous entendu des incitations à la violence. Des gens comme John Numbi qui est à l'exil, qui dit nous allons attaquer. Et effectivement, Malemba Nkoulou, c'est le village de John Numbi. Bon, il nous a dit tout de suite qu'ils avaient déjà pris des précautions. La difficulté, c'est que vous avez pour tous les territoires, plutôt de Malemba Nkoulou centre, il n'y avait que 7 policiers à Malemba Nkoulou. Vous vous rendez compte? Donc l'État était absent. Alors il fallait que les SRDC interviennent pour mettre fin à ces tueries. Et il nous a informé comment ils ont renforcé avec les militaires qui sont venus de la base Kamina. Et ils ont pris d'autres militaires de Puerto. Ils sont allés renforcer là-bas. Parce qu'effectivement, comme a dit l'intervenant de Ituri, il y a les anciennes milices de Makabe, les anciennes milices de Chinja, de Bakanda Bakok, qui sont toujours à cet endroit-là. Et nous trouvons que c'est très dangereux de ne pas tirer attention avec quelqu'un comme le général Diadio Numbi, qui incite de loin là où il est, que non, il va intervenir. Et les jeunes gens, les pauvres jeunes gens qui sont sur place, peut-être ils se disent, bon, écoute, un jour le général va venir. Il a raison que l'État vraiment intervienne, que les instances judiciaires interviennent. Et puis beaucoup plus, Madame la gouverneure de la province du Olomami, elle est absente, on ne la ressent pas. Comment il n'y a pas d'autorité? Si c'était dans le Lualaba, ben vous allez tout de suite sentir, il y a une dame là-bas qui agit tout de suite. Au Katanga, vous allez sentir tout de suite. Mais dans le Olomami, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que les autorités interviennent.
Bien, il faudrait que les autorités interviennent. On va accueillir Achille de Lumbashi, ensuite le professeur Mwendambale, qui est historien des mentalités. Monsieur Achille, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs.
Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les violences intercommunautaires, surtout entre les Kasaïens et les Katangais?
Bon, ce qu'il faut faire pour moi, parce que j'ai une question, avant de poser la question, je dois aussi répondre à votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, je pense que je suis à Lumbashi depuis des années. Je suis en train d'interpeller à nos amis, à nos frères Kasaïens, de respecter la culture katangaise. Parce que quand vous venez à Lumbashi, pour ceux-là qui savent Lumbashi, il y a un monument là, il y a deux monuments, et l'autre monument, il y a une jambe qui est coupée, et l'autre, il y a quelqu'un qui est en train de tenir des tambours. Donc, ça signifie quoi? Ce monument-là, donc, symbolise que quand tu viens dans la culture katangaise, tu dois t'adapter à ce que les autres font. Donc, à ce que les Katangais font. Mais quand vous venez, vous voulez imposer votre culture, vous voulez faire de n'importe quoi, là, je pense que vous n'allez pas vous entendre. Et ma question était de savoir, parce que depuis très longtemps, comme je suis en train de le dire, ce conflit-là existe entre ces deux tribus, les Luba du Kasaï et les Luba du Katanga. Je voudrais demander à l'invité, au fait, c'est quoi ce conflit-là, il dit à quoi? Parce que depuis mon enfance, même quand on est dans les transports en commun, il suffit seulement de faire quelque chose, et ouais Kasaï, Tokapal, et ouais Mouluba, Tokapal, donc, des trucs comme ça. C'est quoi, au fait? Parce que ça finit pas. Dernièrement, on avait vu la maison de quoi? Je sais pas comment ça s'appelle en Luba, les Luba du Katanga. Cette maison a été détruite par la communauté kasaïenne. Donc, ces conflits-là existent toujours, malgré qu'il y ait des dialogues, malgré qu'il y ait des rencontres entre les leaders du Kasaï et les leaders du Katanga. Ça finit pas toujours. C'est quoi, au fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment, finalement, mettre fin à ce style-là, à ce conflit-là? Voilà ce qu'ils allaient.
Merci Achille de Lumbashi. Professeur Saint-Augustin Mwendambale, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour
à tous nos amis des Radio Okapi.
Vous êtes historien des mentalités. Alors, vous avez suivi qu'il y a un conflit latent entre les deux communautés, kassaïennes et katangaises. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir l'escalade de la violence, surtout à l'approche des échéances électorales?
Bon, je dis, ce problème est envisagé à la base. D'abord, est-ce que nous avons des dispositions pratiques qui nous permettent d'accueillir l'autre, de voir l'autre comme étant sa complémentarité? Est-ce que nous avons ces dispositions dès le bas âge à partir de nos familles? Nous avons évolué dans des familles, je dirais même puritanistes, où quand l'étranger venait dans la famille, faisait notre joie. Il fallait couper avec la monotonie, des mêmes gens, des mêmes habitudes, et découvrir peut-être de nouvelles valeurs auxquelles on a jadis échappé. Donc pour moi, la théorie, c'est de préparer au niveau de la base, en introduisant petit à petit cette notion de l'unité dans la diversité, cette notion de cohabitation pour le bonheur de tous. Et ces notions font défaut. C'est pour ça qu'il y a une crise terrible des valeurs dans notre pays et les politiques profitent de ce déficit pour pouvoir s'attaquer à leurs adversaires en remuant la terre, en demandant par exemple aux gens qui sont de son obédience de barrer la route à tel parce qu'il n'est pas de leur tribu. C'est un argument de faible, je dirais. Moi, je préfère que l'autre vienne m'enrichir. Je préfère que le débat puisse m'amener à découvrir de nouvelles valeurs qui échappaient à mon subconscient. Mais ce n'est pas le cas, même au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. Moi, je ne peux pas vous cacher, je n'ai pas apprécié cette problématique de nationalité, du père, de mère, d'origine, parce que c'est le début de la division. Je préfère même être dirigé par un Kassaï. Moi, je suis du Kivu, un Mswahili. Mais si c'est lui qui a la compétence, c'est cette honnêteté qui fait défaut, et ça devient une arme de faible, faible, faible. Quand on vexe quelqu'un, on recourt à l'argument le plus facile, dit celui-là n'est pas de notre. Il faut le chasser, il est venu nous envahir à notre détriment. Alors ils sont incapables de faire le travail que l'autre est taxé d'étranger est capable de faire. Et moi je donne un exemple pur et simple. Moi j'ai une dame congolaise, on a été en Europe. On a eu nos deux premiers enfants, trois, quatre premiers enfants, en étant en Belgique. Ils ont obtenu la nationalité belge. Vous vous souvenez, je me mets à la place maintenant de mes enfants. Quand Belgique comprenne une décision qui dit, mais peuvent devenir belge ou président ou roi, que les gens qui sont belges de la couleur blanche, belges de père et de mère, d'origine, ça créerait une frustration terrible. Je me mets dans cette optique-là. Parce qu'il y a des éléments parmi les étrangers qui incarnent un certain nombre de valeurs que nous n'avons pas et qui nous dépassent en termes de qualité, de performance. Pourquoi ne pas profiter de ces performances-là pour construire notre pays qui est de rester dans la médiocrité dans laquelle nous nous enfermons au nom de la sainte tribu, au nom de la sainte relation, sainte, je dirais même deux fois, alors une relation, un milieu qui ne peut rien apporter pour le développement d'un pays. Voilà pourquoi c'est moi je n'encourage jamais ce langage. Et quand vous maintenez ce langage, je vous prends directement pour quelqu'un de basse classe intellectuelle,
c'est-à-dire incapable de faire un sursaut d'orgueil en disant que l'autre aussi peut m'apporter quelque chose. C'est cette altérité, moi. Je plaide pour l'altérité, pour une cohabitation pacifique. Que les politiciens ne puissent pas nous instrumentaliser. C'est leur argument et qui attrape le plus faible. En disant cela, ils comprennent facilement parce qu'ils n'ont pas de programme. Parce qu'ils n'ont pas d'idée qui puisse permettre le développement. Et moi, j'ai toujours réfléchi dans ce sens, M. Jody. La base. Et puis, que les politiciens véreux évitent de nous diviser pour des intérêts égoïstes. C'est leur ego qui parle à eux. Ils ne le disent pas parce que vous êtes étranger, ils le disent parce qu'ils sont incapables de faire ce que l'étranger peut faire.
Voilà, on retient que la violence, le tribalisme, c'est l'arme des faibles, des gens qui n'ont pas pas d'arguments. On va accueillir Malonga depuis Bandundouville et je reviens à vous, professeur. Monsieur Malonga, bonjour.
Merci. Bonjour, Jody, et bonjour notre professeur éducateur, et bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment-ci, Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour lutter, pour prévenir la violence intercommunautaire à l'approche des élections?
Olifata. Oui, merci beaucoup, Jody. Vous allez me laisser un petit temps pour relater une préambule de l'histoire de notre Congo. Je sais très bien que depuis longtemps, nous, les RD Congolais, nous n'avons pas cette attitude-là. Et depuis longtemps, il y avait aussi la divergence entre nos politiciens, ceci, cela. Mais cette situation que nous vivons aujourd'hui, en tout cas, n'existait pas. Moi, j'étais à l'Est en 2001.
Oui, c'est l'exemple de Nitocha.
Oui, allez-y, M. Malonga.
Oui, dans la ville de Kindu et de Bukavu. Je me suis rencontré par quelques Hutus réfugiés. Moi, j'avais entendu les Hutus nous disaient que ce que nous avions vécu chez nous au Rwanda, vous aussi, vous finirez à vivre ça dans votre pays. Puisque nous savons là où la situation va. L'objectif, c'est détruire le Congo. Ah, j'ai dit c'est comme ça. Oui, il y a certains qui avaient pris ça comme seulement information qui s'évapore. Mais lorsque je commence à vivre ça, la situation de Kamwanasap, la situation d'ici chez nous de Mobondo, la situation de Kasumbalé, ça vraiment, s'il vous plaît. J'ai des images ici dans mon téléphone. En tout cas, je crains. Et ça me rappelle que ce que ce Hutu-là nous disait, c'est ce que nous commençons à vivre. C'est ce que je veux prendre. Oui, l'invité vient de nous relater, il définit la violence, ceci, cela. Oui, nous pouvons baser tout ceci, la propagande, tout ça. Mais pour moi, je m'oppose à ça. J'ai pris souvent et je supplie à nos politiciens, s'il vous plaît, de faire tout et tout pour finir la situation de l'Est. Puisque c'est par là où vient tout ça. Nous, les Congolais, nous connaissons. Nous n'avons pas cette culture de centrifuge comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Il y a quelque part où vient cette situation qui nous ensorcelle, alors nos jeunes et nos cultures adaptent ça pour nous habituer à cela. Et la voie de faire sortir cela, vous voyez chaque fois, ce que nous vivons aujourd'hui à Kasumbalès, moi je vois dans les images ici, il y a...
Vous voulez parler de Malembankoulou?
Bon, voilà, de Malembankoulou s'il vous plaît.
Alors rapidement, quelle est la question que vous adressez aux invités, Monsieur Malonga? Les autres attendent. Rapidement, la question.
Oui, la question suit elle. Les autorités qui voient ceci, quelle proposition? Oui, je félicite d'abord le ministre de l'Intérieur qui veut de repêcher la force. Oui, c'est la force ordinaire. Alors, à part ça, qu'est-ce que le vieux sage, les sages, ce que je devrais dire, là où à Malembankoulou, je vois que les sages se mettaient debout, là où les jeunes commence à tuer d'autres jeunes Kassaïe, et puis les vieux sages se mettent debout voir qu'est-ce que vraiment les vieillards qui devraient enseigner les jeunes de ne pas faire ces actes-là, de ne pas commettre ça. Qu'est-ce qu'ils proposent à cela?
Hein? Bien, merci, merci Monsieur Malonga. D'accord.
Pour finir cela.
Merci, merci Monsieur Malonga de Bande Nouvelle. Monsieur Hubert Tshiswaka, vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'avoir envoyé la parole. Et c'est très important, comme toute la République est en train de nous suivre, que je revienne sur un élément, qu'un auditeur, je pense qu'il est aussi à Lubumbashi, qui se lève et qui dit que non, bon, les Kassaïens doivent respecter. Et quand ils viennent chez autrui, ils doivent respecter la culture katangaise. On doit tirer beaucoup, beaucoup d'attention avec ce discours-là, parce que il pose l'agrégat de séparation, l'agrégat de l'étranger. Moi, je vais donner l'exemple. Mon père était né ici déjà vers 1923. Aujourd'hui, c'est tout un siècle. Moi, je suis né ici et j'ai grandi ici. Et je dois aussi, je vous informe aussi, que mon organisation, l'IRDH, c'était l'organisation qui s'était mis debout contre la loi Tchani. Et nous avons fait des émissions à Kinshasa, à Bosolo, tout ça, pour lutter contre ces histoires de discrimination. Ça visait en premier lieu Katumbi Tchapwe, et puis ça visait aussi toutes ces personnes qu'on appelait des demi-Dakar. Mon organisation s'était mis en voix en poupe. Et on dit que non, bon, on est en train de bafouer les statues dans la ville, des monuments. Ah mais non, c'est comme l'histoire aussi des Kasumbalesa, de ces messieurs qui portent le même nom que moi, qu'on appelle Isaac Tshiswaka. Ce n'est pas l'histoire de la communauté, chers amis, s'il vous plaît. Ce n'est pas la communauté qui fait ça, ce sont des individus identifiables qu'on peut bien déférer devant la justice. L'État doit agir. L'exemple des Kasumbalesa, par exemple... Monsieur Tshiswaka est connu de tout le monde. Pourquoi on ne l'interpelle pas pour qu'il cesse de perturber l'ordre public à Kasumbalesa, à la place de la poste de Lubumbashi? Ce n'est pas toute la communauté qui va là. Il ne faut pas accuser toute la communauté. Il y a des individus qui vont là-bas, qui détruisent.
Monsieur Hubert, si je comprends bien, à part Malembankoul, ce qui s'est passé à Malembankoul, il y a aussi d'autres problèmes à Kasumbalesa.
Oui, il y a un problème à Kasumbalesa. Il y a un monsieur qu'on appelle Tshiswaka, qui porte malheureusement le même nom que moi, qui entretient une brigade qu'on appelle Baz Bilanga. Alors avec ça, il sait la loi de ce côté-là. Où est l'autorité de l'État? Il ne faut pas mettre ça sous le dos de la communauté. C'est l'État qui doit agir. La police doit intervenir. Les autorités judiciaires doivent intervenir. Le gouvernement provincial doit intervenir. Même le gouvernement national doit intervenir. Il ne faut pas... C'est cet argument-là que moi, je n'accepte pas, que le politicien utilise facilement pour dire s'il y a un individu qui commet un forfait, on dit c'est toute la communauté. C'est ça le drame de Malembankoulou. Il y a eu un bandit qui a volé la moto, il a été identifié. Il y a eu un bandit qui a tué un motard, il a été identifié. Mais on dit, non voilà, les Kassaïens ont tué et on commence à tuer les autres Kassaïens. Il faut tirer beaucoup d'attention avec ce discours de stigmatisation de toute une communauté. Moi, je parle avec les gens de l'UDPS, je leur rappelle ça. Je parle avec les gens de Ensemble, parce que ici au Katanga, les plus grands partis politiques, c'est UDPS, du président Tshisekedi, et Ensemble, du président Katumbi. Nous qui sommes dans les organisations des droits de l'homme, nous parlons avec tous les groupes pour attirer leur attention, et particulièrement ce discours stigmatisant de dire les autres sont des étrangers et ici ils ne sont que des locataires. Non, ça c'est un faux discours. Ils disent que non, ils ne respectent pas nos coutumes et traditions. C'est un faux discours. L'individu qui pollue la ville doit être arrêté. L'individu qui va jeter des déchets à la place de la poste doit être arrêté. Tshiswaka qui crée la zizanie à Kasumbalesa doit être arrêté. Full stop. Ce n'est pas l'histoire des communautés. Quand vous versez dans la stigmatisation de la communauté, alors c'est vous qui faites le lit à la violence. Et mon organisation est vraiment contre ça. Nous fournissons des gros efforts pour parler à tous les partis politiques. Et chaque fois nous dénonçons des parts et d'autres de tels discours de stigmatisation. Il y a eu un ministre provincial qui a fait aussi un tel tweet il y a près de trois semaines pour dire, voilà, vous les frères du président, et vous êtes ici comme sur la terre conquise. Non, monsieur le ministre, c'est ces gens qui sont allés dans le parti politique, ce sont des politiciens. Les autres qui ne sont pas dans le parti politique, il ne faut pas les mêler, parce qu'avec un tel discours, ils ne sont pas frères au président. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas frères au président, c'est ceux qui vont faire la guerre aux frères du président. Ces discours, nous les dénonçons, parce qu'à un moment même, l'Église est entrée là-dedans. Frère une fois, frère toujours. On prend un groupe de gens, on les met dans l'Église, on dit que non, vous, vous êtes des frères et des sœurs, et les autres les laissent dehors, non, vous, vous n'êtes pas des frères. Non, ça, c'est de la stigmatisation. Et nous devons tous militer contre ces stigmatisations. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur pour dire que il n'y a pas de structure de construction de la cohésion sociale. Même quand ils vont en Assemblée nationale, nos députés passent tout le temps sur leurs problèmes égoïstes. Voter des lois pour leur propre survie, voter des émoluments pour se partager des $21,000, mais ils oublient complètement la gestion de la chose publique.
Oui, monsieur
alors
Hubert,
là, c'est le grand travail des médias.
Oui, en passant, oui. Monsieur Hubert, il y a, par exemple, la loi Sakata contre la loi par rapport au discours des haines, le tribalisme, etc., qui a été ce projet de loi n'a jamais été aligné pour être discuté rapidement et puis être voté.
Oui, mais effectivement, parce que eux savent, les politiciens véreux, tels que le professeur Monambal venait de les qualifier, ces politiciens véreux, ils savent que c'est ça leur gagne-pain. Quand ils descendent à la base, ils disent Ouais tout. Donc pour dire le nôtre est là. C'est ça, vous devez voter pour le vôtre. Les autres sont des étrangers. Mais c'est un tel discours, c'est de la discrimination. Et quand on leur propose une loi contre la stigmatisation, contre la discrimination, contre le discours de haine, ils ne peuvent pas l'adopter. C'est là le grand travail qu'ils laissent aux médias et à la société civile. Le travail que Radio Okapi est en train de faire tout le temps comme ça pour éveiller la conscience nationale, c'est vraiment très important. Mais il n'y a pas beaucoup de médias. Regardez les autres médias, ils passent beaucoup de temps à nous balancer la musique au lieu de faire de la délégation civique pour que tout le monde se sente au Congo et au Congo chez lui. Et cette histoire de discrimination des pères et des mères, les histoires d'étrangers dans la province, non, ça détruit la nation. Nous devons tous nous lever et dire non, ça ne peut pas passer. Aller tous aux élections avec un discours de paix et que la population puisse choisir et que les meilleurs gagnent. Ça, c'est ça que nous pouvons passer comme message. Nous avons 26 candidats présidents de la République et tous les 26 circulent à travers toute la République sans être inquiété. Et là, c'est l'occasion encore de dénoncer ce message de ces gouverneurs du Kassai central qui prétendaient que les autres candidats ne peuvent pas passer au Kassai central. Des choses comme ça, nous sommes contre. Il faudrait que tous les candidats circulent dans toute la République, que les meilleurs gagnent. Voilà.
Bien, que le meilleur gagne, le discours des haines, tout ça, le tribalisme, c'est l'argument des faibles, selon le professeur Mouindambale, que nous allons retrouver dans quelques instants, le temps d'accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour Roger.
Bonjour Monsieur Jeudi, et bonjour à tous nos invités qui sont dans votre studio.
Rapidement, quelle est votre préoccupation?
Oui, mais je dis, vous savez vraiment, dans notre pays, le mal commence tout d'abord en haut. Parce que si vous regardez la plupart, à l'époque de Mobutu, Mobutu prêchait beaucoup sur l'unité nationale. Mais aujourd'hui, si vous regardez à chaque président de la République qui arrive, à chaque ministre, à chaque député, allez-y voir dans leur cabinet. Vous allez voir, ils sont, s'il y a de l'Est, il y a les gens de l'Est, si les Moulouba, il y a des Balouba qui sont dans son cabinet. Presque, ça devient vraiment quelque chose qui devient généralisé. Ricardo, aujourd'hui, même oui. Dans les provinces, à l'époque des Mobutu, il y avait quand même des gouverneurs qui n'étaient pas originaires de cette province-là qui dirigeaient. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne tient pas encore. Si vous regardez dans les moments où nous sommes avec le député qui vont descendre dans l'air circonscription, il y aura toujours des discours il faut me voter, tel n'est pas originaire de tel. Ils auront toujours des discours là qui ne seront pas des discours vraiment déplorables. Moi, je pense que si quand même nos politiciens vont quand même nous aider quand même, parce que c'est eux qui viennent avec ce genre de discours. Aujourd'hui, si vous regardez toujours partout, dans l'air sorti, vous allez voir toujours ce sont des politiciens là qui incitent toujours les gens. Ils ont commencé avec des pères et des mères.
D'accord, d'accord, merci Roger. D'accord, c'est noté Roger Marcel. Alors professeur Saint-Augustin Mwendambale, qu'est-ce qu'il faut faire au stade où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et de manière en urgence, si je veux dire, pour stopper, empêcher l'escalade de la violence?
Bon, il est vrai que quand on procède par la vulgarisation d'un certain nombre de valeurs altruistes, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que c'est une démarche à longue portée. Hein, il faudra absolument qu'on étaye les bases à partir de la famille. À l'école, on prêche les mêmes discours d'amour et de respect de la dignité humaine. Ensuite, dans la société qui accueille, qu'on apprenne aux gens de savoir vivre ensemble, et à l'État de faire un choix judicieux dans l'option de sa politique, de manière à préserver, si les individualités, il y en a, s'il y a les faiblesses, il y en a, s'il y a les forces, qu'on sache quand même le mettre ensemble et faire un beau tri. Alors moi, j'en arrive maintenant au niveau du politique. La députation se gagne en termes d'un programme qu'on présente. Si vous appartenez à un parti politique, vous devez montrer les valeurs que vous incarnez au sein du parti politique. Et il faut insister. Malheureusement, la CENI ne peut pas intervenir à ce niveau, mais c'est au niveau de la loi électorale qu'il faut dire un parti politique. Ce n'est pas celui qui est composé de gens de même obédience, de même tribu. Un parti politique qui se respecte est celui qui fait le melting pot, qui mélange les gens de différents horizons, de différentes tribus. Et c'est ce qui fait la force des partis politiques. Parce que moi, aujourd'hui, je dis, je suis prêt à m'effacer entre un professeur Moumba, Kassaïen, Mouswahili, Congo. J'estime que celui-là, il n'est pas le mien, mais celui qui incarne bien la représentation de la République, je préfère m'éclipser et céder ma place que je pouvais conquérir en faveur de lui. Il faut cet esprit qui est dominé par un sens élevé d'amour patriotique. Nous sommes là pour la même cause, pour préserver ce pays de la disparition. Nous devons militer, nous tous, nos efforts unis pour que nous puissions vaincre cette bataille, qui est de regarder des petites choses qui nous divisent, les langues. Qui ne peut pas prendre la langue de l'autre? Est-ce que c'est un tabou d'apprendre la langue de l'autre? Est-ce un tabou de bénéficier de la tribu de l'autre, de certaines coutumes qui méritent d'être copiées? Non, moi je suis vraiment contre les discours de haine et je comprends que je prêche l'éthique. L'éthique n'a pas de couleur. L'éthique n'a pas de tribu. L'éthique n'a pas de parti politique. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique. Mais cela ne peut pas m'empêcher d'être partisan de telle politique parce que dans son programme, il a inséré, par exemple, la lutte contre la corruption doit être élevée à un crime contre l'humanité. C'est l'idéal, les idéaux qui me dirigent et pas la couleur et pas l'appartenance, la vérité, la pure et objective vérité qui concourt à la survie, à la bienséance et au bien-être de notre population et de l'humanité.
Bien, on va accueillir Kole depuis Malemba Nkoulou. Kole, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre...
Kole, oui, je salue d'abord les auditeurs de la radio Kapi. Ma préoccupation en est qui est. Nous sommes déjà étonnés ici à Malemba Nkoulou. Depuis qu'on avait fait cet incendie là-bas, il y avait des éléments de la police. Et même, je me demande comment, depuis qu'on avait installé les éléments de la police ici à Malemba Nkoulou, ça fait déjà depuis 2006, on n'a jamais fait la mutation. Est-ce que les gouvernements de la République ou de la province du Holomami, est-ce qu'on n'a jamais fait cette mutation? Comment ils pensent par rapport à ça? C'est ça ce qui prennent beaucoup. Et même, vous verrez, les éléments de la police là-bas, d'ici à Malemba Nkoulou, sont des natifs. Ils sont aussi instrumentalisés de la tribalisme. Je me demande si on ne paye jamais ou on ne peut pas faire la manifestation de ces éléments de la police pour amener d'autres policiers.
D'accord, merci. Il dit que les policiers qui sont là-bas, voilà, ils sont également dans, ils ont versé dans le tribalisme parce qu'ils sont des fils du terroir. Alors pourquoi ne pas les muter, les envoyer ailleurs et faire venir d'autres, Monsieur Hubert Tshiswaka?
Oui, la dernière intervention est très importante parce que la République ne devrait pas rester dans la tribu. La République est très vaste. Et il faudrait que chaque personne participe à la gestion de la chose publique à différents endroits. Maintenant, nous sommes en train de tendre vers la conclusion. Moi, avec mon organisation, ce que nous pouvons fortement recommander, c'est que les organisations de la société civile, les médias de toute la République et les églises doivent fournir des très gros efforts pour participer à cette grande éducation publique, éducation civique du grand public. Nous devons forcer aussi qu'on puisse écouter notre voix. Parce que si vous regardez bien, ceux qui prônent la violence parlent beaucoup plus que ceux qui veulent des valeurs. Comme professeur Mondambali là-bas, beaucoup ne l'ont pas encore entendu, mais il faudrait que des gens comme ça parlent beaucoup plus. Il faudrait que nous puissions régulièrement parler et ne pas attendre des opportunités seulement comme les élections pour parler. Sinon, notre société ne peut pas vivre que le jour des élections. Et j'insiste beaucoup, il y a des individus qui sont en train de distiller chaque jour dans les médias sociaux la haine. Ce sont des petits mots de stigmatisation et des petits mots qui font la différence entre des citoyens compatriotes qui, à la fin, d'abord, éloignent toute sympathie envers l'autre, enlèvent toute la dignité parce qu'on passe tout le temps à s'insulter et puis, lorsque la violence viendra, on peut facilement tuer l'autre parce qu'on ne sent aucun lien avec l'autre. On l'a insulté toute la vie, alors pour le tuer, ça ne prendra qu'un coup de bâton comme ça s'est fait à Malemba Nkoulou. Il faudra vraiment de l'éducation. Cette histoire de dire les frères sont ceux-là qui sont d'une province du bien, d'une tribu, qui ne sont pas frères aux autres membres de la République, en tout cas, il faudrait que nous puissions vraiment changer ça. Et puis ne jamais stigmatiser. S'il y a un individu qui commet un crime, il faut arrêter cet individu. S'il y a un groupe d'individus qui se constitue en groupe armé, en bandit, en crime organisé, il faudrait qu'on les arrête cela. Il ne faudrait pas qu'on puisse dire non, c'est toute la communauté. Oh non, nous allons donner conseil à nos frères de la communauté qu'ils puissent respecter. Non, mon monsieur, ça n'existe pas. Ce sont des individus. Chaque individu répond de ses actes et on avance.
Bien, professeur Mwendambale, je viens de recevoir un message de Charles depuis Lubumbashi. Il dit, ce qui est à la base, c'est le tribalisme. Les Luba du Katanga et ceux du Kasaï ne s'entendent pas, car les Kasaïens ne se rabaissent pas quand ils sont chez autrui. C'est Charles depuis Lubumbashi. Professeur Mwendambale.
Le Kasaïen se trouve au Katanga, ne sont pas
chez autrui. Ils sont chez eux. D'abord, l'origine même des Balouba du Katanga et des Balouba du Kasaï, la teste bien. Ce sont deux peuples frères, un seul peuple. Je ne parlerai pas même de deux peuples. Pourquoi ne pas profiter de l'expérience que l'autre vous amène? Pourquoi ne pas l'accueillir dans les bonnes conditions? Parce qu'il vient vous enrichir, vous donner ce que vous n'aviez pas et recevoir de lui, de vous, ce qu'il n'avait pas. C'est ça la dialectique. Il ne faut pas regarder dans l'autre le regard de rejet. Il faut le discriminer d'office parce qu'il n'est pas né à Lubumbashi, il n'est pas Mulubakati de Katanga, mais il est Mulubakati de Telandro. Non, il faut regarder en lui les qualités, l'apport qu'il vous apporte. Et regarder également ce que vous pouvez lui donner pour compléter ce qu'il n'a pas. Moi, c'est le discours éthique et le discours de responsabilité éthique. Faire du mal à l'autre, il suffit de cultiver ce qu'on appelle la doctrine d'empathie. C'est transporter dans les corps de l'autre pour communier avec lui dans les souffrances qu'il ressent. Je vous dis, c'est le grand secret. Se mettre à la place de l'autre et vivre la scène d'humiliation que vous lui faites subir, vous allez renoncer à cette instrumentalisation, à ce conflit barbare qui n'a pas de raison d'être. Merci.
Bien, merci professeur. Monsieur Hubert Tissouac, à votre réaction.
Je trouve que c'est que la théorie que le professeur Mounambali vient de nous donner là-bas, c'est un très bon conseil. Ça va effectivement nous permettre d'aller loin, comme son nom dit, Mwendambali. Je pense que nous Mwendambali. Mais si je peux bien revenir sur l'intervention, il y a quelqu'un de Lubumbashi qui a dit « Non, les Kasaïens, quand ils sont chez autrui, ils ne se comportent pas bien. » Écoute, des fois, moi je parle de temps à autre avec Katumbi. Je rigole parce que le papa de Katumbi, c'est un blanc. Et Katumbi est Katangé. On l'accepte comme Katangé et il est candidat à la présidence. Moi, mon papa est d'origine du Kasaï. Katumbi et moi, nous sommes tous ici, nous avons grandi ensemble. Mon père est ici depuis 1923. Et ces gens qui sont en train de me dire, non, vous êtes chez autrui. Ici, c'est chez autrui, c'est chez qui? Parce que quand nous discutons souvent avec Katumbi, nous sommes pratiquement dans les mêmes situations. Même tous ceux qui sont, même tous ceux qui parlent aujourd'hui, bon voilà, et ils sont étrangers. Les Baloubakat, nous sommes venus du même coin, nous avons traversé l'ancienne Égypte pour arriver jusqu'ici. Les Bayeke, ils sont venus de Tanzanie. Les Babemba, les Balamba sont venus de la Zambie jusqu'ici. Les Tchokwe, les Lunda sont venus de l'Angola jusqu'ici. Mais alors, qui va me dire que moi, je suis étranger ici au Katanga? Mais nous devons plutôt construire les connaissances de la mobilité de la population. Ce que nous devons peut-être faire remarquer, ce sont des individus qui ont de très mauvais comportements, des individus qui débarquent fraîchement du village, qui se comportent comme s'ils étaient encore au village. Ces individus là-bas, il faut les mettre à leur place.
Et ne pas généraliser, surtout ne pas généraliser, en faire un problème des communautés. Oui,
oui, il ne faut pas prendre leur comportement.
Monsieur Hubert, on n'a plus beaucoup de temps. On reviendra sur cette thématique qui est intéressante. Je rappelle que vous êtes directeur général à l'Institut des recherches en droits humains à Lubumbashi. Et nous disons merci au professeur Saint-Augustin Mwendambale, historien de mentalité. On reviendra encore sur cette thématique prochainement. Merci d'avoir participé et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, alors tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'entrepreneuriat, on va parler du salon d'innovation du Kivu qui s'est déroulé dernièrement, comment tout cela s'est passé, de quoi cela, voilà, c'était autour de quel thème thématique, et bien nous allons en savoir un peu plus après les informations. Il est 11h à Kinshasa.